Richard Séguin, la chanson « Émile ».
Oui, très belle chanson de Richard Séguin. C'est une suggestion de notre chroniqueuse livre, Anne-Marie Aubin. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Hélène.
Pourquoi cette chanson?
Ben justement parce que j'ai appris en lisant le livre dont je vais parler aujourd'hui que Jonathan Arnois écrit quantité de textes. C'est un parolier et parmi les textes, ben, il a fait un collectif qui s'appelle Nos forêts chantées.
Oui. Oh, Anne-Marie? On l'a perdu.
Cette chanson a été un texte très lié
à... On l'a retrouvé. Excusez, il y a une longue coupure, Anne-Marie.
Ah bon, je reviens. Alors, je disais donc que la chanson « Émile » de Richard Séguin fait partie d'un collectif. Et toutes les paroles de ce disque-là ont été écrites par Jonathan Arnois, qui est parolier, et un auteur dont je vais parler dans le livre aujourd'hui.
Allô?
Oui, on a du mal à s'entendre, je crois.
Oui, mais non, là, je pense que ça va. On s'entend bien. Alors, je voulais juste faire une petite précision parce que on vous a perdu quand vous avez présenté le projet collectif « Les forêts chantées ». Et on trouve, entre autres, cette chanson de Richard Séguin, « Émile ». Et le livre dont vous allez nous parler est signé Robert Lalonde et Jonathan Arnois, qui sont deux personnes de différentes générations.
Oui, et puis Jonathan Arnois est l'auteur de tous les textes du CD en question dont je parlais tantôt. Oui, deux personnes de générations très différentes. Robert Lalonde est né en 47 et puis Jonathan Arnois en 81. Ils ont près de 35 ans de différence. Et puis, bon, ben aussi, Robert Lalonde est un auteur prolifique qui écrit, qui publie au moins un livre par année, à peu près, je dis ça sans les avoir comptés, alors que Jonathan Arnois a écrit un premier roman qui s'appelait « Je voudrais me déposer la tête » en 2005.
Oui, et je me souviens, roman... ça avait été adapté au théâtre. J'avais vu cette pièce à l'Espace
oui,
Go.
Ouais. Moi aussi, je l'ai vu adapté par Claude Poisson, mise en scène de Claude Poisson. Et puis, c'est à propos du suicide d'un ami très proche avec qui il devait aller à la pêche le lendemain. Mmh. Et il apprend, alors à ce moment-là, ça bouleverse une vie. Ils sont très jeunes, ils sont dans la vingtaine. Et on dirait qu'il a tout mis dans cette œuvre-là. Et que là, il hésite, et il est très exigeant, et il n'ose pas publier. Puis il a fait que des petits textes et des chansons qui sont très belles. C'est un grand poète et Robert Lalonde, son rôle, c'est peut-être de le stimuler et de lui faire voir que non, tu dois poursuivre. Alors au début, comment ça nous est présenté, c'est qu'ils se sont vus lors de la pièce de théâtre qui a été adaptée et ils se sont perdus de vue après ça. Et Robert Lalonde, ou je ne sais qui, à l'introduction, dit « À la suite d'une éclipse de plus de 15 ans, au dessert d'un bon dîner, nous convenons de réactiver notre complicité spontanément renouvelée. Les missives qui suivent sont le fruit de nos échanges ininterrompus durant toute une année. » Effectivement, le texte, c'est une suite de lettres qui sont chronologique et qui parle de quoi? Ben, de l'écriture, de la vie, de la création, du doute du créateur, de la quête, je sais pas, d'authenticité, du mal de vivre. Il est question de la pandémie parce que ça se passe tout récemment, ces lettres-là, et de leur difficulté à vivre cette période de confinement où chaque créateur se demande à quoi il sert quand finalement tout est sur pause. Donc, la correspondance se répond aussi. L'un agit comme mentor, qui est comme un grand frère, je dirais, puis peu à peu, ils vont développer une amitié, parce que le jeune est très assoiffé d'apprendre, de prendre confiance en lui, et il va se développer une affection très grande entre les deux écrivains, qui se révèlent au final autant l'un que l'autre, des mentors l'un pour l'autre, parce que leur stimulation, leur amitié, leur questionnement, plein de hasards font qu'ils se connaissent bien. Au tout début, par exemple, Jonathan Arnois raconte son histoire à propos de la partie de pêche et, où il apprend le suicide de son ami. C'est épouvantable. Alors, lui, il lui raconte un événement semblable dans sa vie. Il avait été invité à donner des cours à l'Université McGill. Il avait dit, bon, ben dans ma classe, je veux inviter des auteurs. Et puis là, il rencontre Nelly Arcan, qui avait le projet de faire un atelier avec lui, et ils dînent ensemble. Et c'est pas longtemps après, quelques jours après, qu'il apprend qu'elle s'est suicidée. Donc, de la même façon, tous les deux créent une relation avec quelqu'un, et puis ils apprennent, sont sous le choc. Donc, à divers moments dans l'écriture de leurs lettres, ils apprennent à se confier l'un l'autre, et ils développent une grande intimité, et on s'aperçoit que malgré leurs 35 ans de différence, malgré leur cheminement très différent, ils ont plein de points communs et ils partagent généreusement sans pudeur exactement comment est-ce qu'ils vivent tous ces événements-là.
Savez-vous si l'intention de départ, c'était de publier leur correspondance?
Non, absolument pas. C'est ça qu'ils ont dit, c'est que finalement, un peu plus tard, ils ont fait lire ça sur un an, ce que ça donnait. Puis des gens, ils ont dit, vous devriez publier ça. Ils l'ont suggéré aux éditions Boréal. Et puis, en fait, pourquoi c'est intéressant? On n'est pas tous des écrivains en train de se demander qu'est-ce qu'on va écrire, mais on est tous des êtres vivants qui cherchent le sens de leur vie, qui sont en quête d'une vie meilleure, qui réfléchissent sur le temps qui va vite. Et c'est ça qu'ils font aussi. Et puis, ça donne aussi l'idée que peut-être on pourrait écrire à des gens plus souvent, parce qu'aujourd'hui, on est au texto, puis aux petites nouvelles vite faites, FaceTime, des choses comme ça. Et eux, c'est pas du tout ça, là. On est dans une écriture très littéraire et ça devient comme un rituel parce que l'autre attend la lettre et va y répondre. Ça se fait pas, là. Il y a pas, comment je dirais ça, la rapidité avec laquelle on attend un retour quand on envoie un texto à quelqu'un, là.
C'est pas instantané, bon,
voilà, c'est pas dans cette vitesse-là. Il va dire en introduction toujours « Cette correspondance est rapidement devenue un rite fraternel, un lieu de sens à l'abri du bordel ambiant. En nous extirpant de nos solitudes respectives, elle nous a permis de réaliser que l'autre est parfois un raccourci vers soi-même. On ne naît pas pour écrire, mais il est parfois bon d'écrire pour naître. » Autrement dit, quand tu écris à l'autre, tu te révèles, puis l'autre aussi, puis finalement, tu apprends autant sur toi parce que tu fais une réflexion avec l'autre. Et cette correspondance, c'est une mode ancienne. Aujourd'hui, on dirait qu'on ne prend plus le temps d'écrire des longues lettres, mais les écrivains, ils l'ont toujours fait. Et ça s'est publié des correspondances entre des auteurs célèbres qui sont décédés et qu'eux lisent et qu'ils citent à certains moments, parce qu'effectivement, ce sont aussi de grands lecteurs qui citent ce qu'ils lisent. Et puis, malgré leur différence d'âge, ben, je crois que le jeune, dans sa soif de vivre dans sa passion, dans ses inquiétudes et son énergie d'un gars qui a bientôt 40 ans, va stimuler beaucoup l'autre qui pourrait dire, bon ben là, j'ai fini ça, j'ai fait ça, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Tu sais? Il est comme un mi-temps de sa vie, tous les deux.
Il a bien son 40 ans, il est né en 81, 42 ans. Ouais.
Sauf que peut-être, il dit, au début du livre, il dit, je vais bientôt avoir 40 ans. Ah. Donc, c'est aussi la période où on se questionne à 40 ans. C'est un tournant. Et les hommes, en général, sont en train de se remettre en question à 40 ans, beaucoup. Les femmes aussi, sans doute. Alors, c'est beau de voir comment ils prennent le temps dans leur vie de s'expliquer l'un l'autre au fil des saisons. Ça commence, on est en été. On sent qu'ils se sont vus tout récemment. Et là, ils vont traverser l'automne, l'hiver qui est moins agréable, qui finit plus de finir, puis le printemps qui est annonciateur. Et ça se boucle sur le printemps qui est symbolique en même temps. Le printemps, c'est la renaissance. C'est très bien. Et là, les lettres, donc, même si elles n'ont pas de date, on sent que ça s'est passé en 2021-2022 à peu près. Et puis, les auteurs qui ont tous les deux beaucoup de talent ont beaucoup de tendresse l'un envers l'autre. Ils ont besoin de ça, on le sent à ce moment-là. Et c'est, moi, je trouve que c'est un bel exemple de générosité d'un auteur qui a quand même une grande réputation, qui a gagné beaucoup de prix, de se confier comme ça à quelqu'un qui est plus jeune, comme un mentor. Et il a fait ça toute sa vie, Robert Lalonde, parce qu'il a enseigné, il a fait des mises en scène. Il a toujours été avec des personnes jeunes qui étaient en formation. Et ils sont tous les deux très exigeants. Il n'y a pas question de publier pour publier. Il ne veut pas être dans le facile, la facilité.
Oui, je me demandais dans l'écriture, j'imagine qu'il y a une différence là, dans la façon d'écrire de Robert Lalonde et dans la façon d'écrire de Jonathan Arnois. Le style, est-ce que le style est vraiment différent d'un auteur à l'autre?
Oui, au départ, puis ce qui se passe, c'est qu'à la fin, ils s'influencent, puis à la fin, il faut lire, parce qu'ils mettent leurs initiales à la fin, puis pour vérifier, c'est-tu bien lui qui me parle, parce
qu'ils
s'influencent beaucoup. Et exemple, Jonathan Arnois dit, « Je dois si souvent me rappeler de vivre, déposer le crayon et la hantise qu'il contient, toucher à l'herbe pour toucher à l'herbe, regarder le ciel pour regarder le ciel, pieds nus, sans mots, sans quête. Vivre est le seul art et je ne cesse de me le répéter car une part de moi refuse encore de l'accepter. Je trouve que ça, Robert Ladon aurait pu l'écrire aussi.
Mais en même temps, est-ce que c'est quelque chose de positif, ça?
Oui, parce que finalement, on s'aperçoit que par l'amitié, ils se donnent chacun du courage et qu'effectivement, oui, un écrivain qui n'écrit pas fait de la culpabilité souvent quand il va aller faire des activités autres ou qui perd du temps.
Oui, mais moi, je parlais plus du style littéraire. Là, quand on s'approprie un peu la manière d'écrire de l'autre, on perd un peu de sa personnalité d'écrivain.
Non, je dis que ça influence, mais en fait, il s'influence pas pour se copier, je dirais pas ça. Mm-hmm. Je dirais qu'il s'influence pour se dépasser et aller plus loin. Tous les deux vont découvrir une nouvelle manière d'écrire. C'est pas long, hein, c'est pas un grand texte, mais c'est plein de confidences. Je dirais que c'est un livre dans lequel tout le monde peut se reconnaître et peut-être que ça donnera envie à des gens de se mettre à écrire, une affaire qui est un petit peu délaissé depuis que la technologie prend beaucoup de place. On sent que ces lettres-là, ils les ont écrites, c'est sûr, par Internet. Ils étaient parfois très loin géographiquement l'un de l'autre, mais ils n'étaient pas écrits. Ils étaient écrits comme s'ils avaient fait des lettres en papier avec une plume.
Ouais.
Là.
Il y a du souffle.
Il y a du souffle, et justement, c'est pour ça que ça s'appelle « Tu me rappelles un souffle », parce que ils se donnent du souffle l'un et l'autre. Mm-hmm. Et c'est un livre excellent qu'il faut lire doucement, qui est plein de citations que j'aurais pu ajouter parce que au-delà de l'écriture, ces gens-là se posent des questions sur la vraie vie, sur l'authenticité, sur la sincérité, sur ce qui les dérange autour d'eux et puis comment vivre à travers tout ça. Et grâce à l'amitié qu'ils ont développée, ils commencent avec un repas ensemble puis ils finissent avec un repas ensemble aussi parce qu'on sent que la pandémie est passée.
Alors, il y aura peut-être une suite, on verra. Pour l'instant, il faut s'arrêter ici parce que les minutes, il n'y en reste plus.
Bon, moi, je vous souhaite des belles vacances et puis on se revoit bientôt.
À très bientôt, Anne-Marie. Tu me rappelles un souffle aux éditions Boréal par Robert Lalonde et Jonathan Arnois. C'est à lire, selon Anne-Marie Aubin.